Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Ce soir, une émission spéciale, le troisième volet de la série Chômage au cinéma, avec un film de Denis Garnier de Fer, Que les gros salaires lèvent le doigt, tourné en 1982 et extrait d'un livre de Jean-Marc Roberts, Les bêtes curieuses.
Alors Gilles, c'est toi qui as amené le film, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce film-là?
En fait, c'est parce que c'est un film que j'avais déjà vu et que je m'étais bien marré, parce que c'est un film en même temps qui est drôle, mais en même temps c'est une satire sociale sur le domaine de l'entreprise, d'un licenciement qui va avoir lieu. J'ai trouvé que c'était le traitement d'information, en tout cas dans ce cadre-là, était assez curieux, mais en même temps, c'est un peu une image aussi, parce que évidemment, une entreprise ne licencie jamais sous cette forme-là. Mais j'ai trouvé ça très très drôle, donc j'ai trouvé ça intéressant de porter ce film pour ce troisième volet.
Claude, est-ce que tu connaissais ce film ?
Oui, je connaissais ce film. Également, il m'a toujours intéressé, parce qu'il est au départ totalement surréaliste, même si à l'époque où il a été fait, il y avait déjà pas mal de chômage, c'est totalement surréaliste la méthode. Et on s'aperçoit, en regardant bien, que c'est très près de la vérité en réalité. Tout au moins dans certaines boîtes, ça s'est fait comme ça. Aussi bien à la débauche, c'est-à-dire au licenciement, qu'à l'embauche.
Oui, alors on va le répéter, donc c'est bien un film qui traite du licenciement, mais si je ne me trompe pas, selon l'INSEE, hein, selon les séries d'INSEE, il y avait à peu près 1 600 000 chômeurs, ce qui était quand même beaucoup, et puis il y avait une montée de l'inquiétude, mais c'est vrai que c'est très précoce finalement comme façon de traiter du chômage satirique. En résumé, c'est un patron d'une boîte, où ça a l'air de pas trop se passer mal, qui convoque ses employés pour un week-end à la campagne, voilà, où ils vont, sans leur dire exactement pourquoi, mais simplement, soi-disant, pour les récompenser.
Mais il faut savoir qu'en 1982, c'est quand même un an après l'élection de Mitterrand, donc Mitterrand a été élu avec beaucoup d'espoir, en tout cas à gauche, puisque les gens votent pour Mitterrand parce qu'ils en ont marre un peu de cette gouvernance de droite qui a duré 26 ans quand même avant, avec Giscard et tout ça. Et donc, beaucoup d'espoir, mais en même temps, il y a effectivement 1 600 000 chômeurs, et pas mal de gens qui licencient déjà, enfin la preuve c'est qu'ils sont au chômage, c'est qu'il y a eu des licenciements auparavant. Il faut savoir qu'en 1982 il y a également des films italiens, espagnols, etc. Et que dans ces mêmes pays, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, etc., on traite également du sujet de façon différente. C'est-à-dire que par exemple on sait que l'Italie, c'est classique, l'humour italien qui traite du social, c'est la satire sociale, mais d'une façon, c'est pas gore, mais c'est extrêmement virulent, c'est nettement plus fort qu'en France. En France on voit dans le film que c'est assez léger, c'est très par touche, un peu comme de la peinture, si tu veux, tu vois.
Moi, je dirais qu'en fait, c'est un film qui est dans la tradition très française de la comédie, hein, telle que de la comédie sociale, en fait, telle qu'on la voit même dans les années 2000. Ça, à la limite, ça me faisait presque un peu penser au placard. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a le cachet fin années 80, avec des plans longs, des plans séquences. Et puis, il y a quand même cette légèreté aussi, hein, dans tout le début du film, qui progressivement va finir vers le drame. Alors le film donc commence comme ça, hein, donc dans une entreprise, une compagnie d'assurance, Daniel Auteuil, qui est un petit employé, fait le tour du personnel pour prendre les vacances de chacun, et puis arrive dans le bureau du patron qui lui demande de convoquer tout le monde à la cantine.
Ah, c'est vous, Lume. Restez debout.
C'est la grille des vacances, monsieur.
Hein ?
C'est la grille des vacances !
Vous voulez pas m'écrire ça, là ? Les vacances, toujours les vacances. Nous en prenons, nous, l'hume, des vacances ? Ah bah alors. Bon, bah c'est pas bien.
Vous n'avez plus besoin de moi, là ?
Hein ?
Je peux disposer ?
Ah oui, de l'air. Allume l'hume. Soyez gentils d'annoncer à vos collègues que je viendrai les voir à la cantine. Tous, hein, dans une demi-heure. C'est très important. Débrouillez-vous pour leur faire peur.
Il faut préciser que c'est une compagnie familiale. Hein. Apparemment, il est propriétaire de toute la compagnie, semble-t-il. Hein. Il n'a pas, voilà, il a pas l'air d'avoir d'actionnaires sur le dos. C'est pas la question. Mais par contre, effectivement, c'est un peu Dieu le Père dans son entreprise. Et tout le monde marche au pas.
Ce qu'il faut dire, c'est la façon dont le film est tourné. C'est-à-dire que ce qui est très bon dans ce film, c'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a une façon dont les acteurs sont dirigés. Tous les personnages sont campés d'une façon mais authentique. Je veux dire que le principe de mettre les pieds sur la table en demandant à son ouvrier, son salarié de rentrer avec les écouteurs sur la tête et puis en disant « parlez plus fort », etc., c'est une façon de montrer qu'on a l'autorité, qu'on a le charisme et que c'est nous qui commandons, quoi.
Oui, alors il faut préciser dans la scène en question, c'est-à-dire que Daniel Auteuil rentre dans le bureau du patron pour lui demander ses congés à lui aussi. Et effectivement, donc Jean Poiret a les pieds sur la table, mais surtout il a un Walkman. Et voilà, il travaille avec le Walkman rivé aux oreilles. Et quand il s'adresse à ses employés, il garde le Walkman allumé. Il dit « Parlez plus fort, s'il vous plaît ». Voilà, et les employés sont obligés de hurler quand ils veulent prendre congé. Ils doivent demander au patron s'ils peuvent disposer. Et là, il va les inviter gentiment à un week-end dans sa maison de campagne à l'idée de sa femme. Voilà, alors déjà, il y a le ton. Alors, le patron que campe Poiret est très très bon, hein, il faut dire. Hein, à la fois tout en cynisme, tout en dirigisme, en paternalisme. Et là, il y a. Est-ce que les patrons sont comme ça, Claude ?
Certains, oui. Je pense que oui. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite, dès que le personnage rentre dans la pièce, que c'est lui le patron. C'est lui qui commande tout et c'est lui qui décide s'il va être bon ou gentil, s'il va dire un mot aimable ou s'il va au contraire envoyer paître, mais d'une manière inadmissible. Je ne dis pas que tous les patrons sont comme ça, je ne les ai pas tous connus. J'en ai quand même connu quelques-uns. Oui, ça ressemble assez bien.
Bon, voilà, mes amis, il y a longtemps que je cherche quelque chose pour vous récompenser. Alors j'ai cherché et finalement c'est Rose, ma femme, qui m'a dit « et si on les invitait ?» Tous ? Elle me dit « bah oui, invitons-les tous ». Ça va vous inviter chez moi à Paris, rue Chambige. Oui, des Marais, oui, rue Chambige, c'est ça. Dans l'8e, 2e étage, 200 mètres carrés plus balcon. Non, rue Chambige, de toute façon, ça n'allait pas. Vous auriez cru faire des heures supplémentaires. Et c'est là que Rose a parlé de Grana. Elle m'a dit, mais fais-les venir à Grana. Grana, notre maison de campagne, vous savez. Je suppose que vous n'avez rien à faire le week-end prochain. D'ailleurs, il sera toujours temps de vous dégager, hein? Alors, parfait, vous avez de quoi noter. Ça y est? Bon, alors, Grana, autoroute A3, troisième sortie. On arrive dans un village, c'est pas là, hein? Il suffit de tourner à gauche, encore une fois à gauche. Vous trouvez une église, une petite route à droite. C'est cette petite route qu'il faut prendre. Tout droit, toujours tout droit. On arrive à un carrefour, et là, c'est tout de suite à gauche. Et vous êtes chez moi. D'ailleurs, vous entendrez les chiens. Voilà, on partira vendredi, après déjeuner, pas trop lourd. Retour dimanche. Des questions ?
Ça veut dire qu'on couchera chez vous, monsieur ?
Oui, oui, c'est tout.
Nous venons seuls, monsieur, ou avec nos femmes ?
Vous pourriez nous répéter ça, Ponte ? Non, mais tout haut, bien fort.
Non, ça va.
Ça va. Alors, si ça va pour Ponte, ça va pour tous.
Plus ample connaissance avec les salariés tout au long du week-end et finalement Daniel Auteuil se fait transporter par un des cadres, un des pontes de sa boîte, il s'appelle Ponte je crois, effectivement Loum, mon petit Loum qui en fait s'appelle Jean-Baptiste Loumet et qui est un espèce d'employé de petit employé intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est entre les cadres et puis les coursiers par exemple qui est joué donc par Daniel Auteuil, hein. Ça fait 11 ans qu'il travaille, qui apparemment est au même poste, et finalement il est amené chez le patron par un des pontes de la boîte, donc il s'appelle justement Monsieur Ponte, et Monsieur Ponte lui demande s'il a peur, et évidemment le petit Loum a peur, et il s'étonne que le cadre lui-même qu'il vénère, hein, puisse avoir peur à son niveau.
On sent tout de suite que ce n'est pas normal. Ce patron qui d'un seul coup décide de récompenser ses gens en les invitant un week-end dans la maison de campagne. Mais, bien entendu, tout le monde a remarqué qu'il n'était pas question d'y échapper. Tout le monde était convié, en fait. Hein. C'est une obligation de venir, soi-disant, subir, qui est, normalement, cette récompense de passer un week-end pour mieux se connaître, comme ça, dans la maison de campagne. Tout le monde est très méfiant. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors que, normalement, le patron ne rigole pas comme ça avec ses employés. Puis qu'il a, peut-être que les gens ont bien conscience aussi qu'ils ne méritent pas tant de récompenses que ça, quoi. Alors c'est vraiment un climat d'inquiétude, là, encore plus, le fait de cette invitation.
Oui, c'est-à-dire que ce personnage du patron, il est quand même cynique. C'est-à-dire que c'est un personnage qui joue sur l'ambivalence, en tout cas, entre le fait de récompenser et de punir. C'est-à-dire que, effectivement, vous êtes tous invités à venir à la campagne, donc ça pourrait être une récompense pour, en fait, virer les gens, et là, ça devient une punition. Et les gens en ont conscience sans en avoir vraiment conscience.
Eh ben alors ? Et alors ? Vous ne buvez rien ? Oh, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas soif, non ?
Moi, je voudrais bien une orangeade. S'il y en a, ben, c'est pas de refus.
Mais j'ai de tout ! J'ai de tout ! Vous rigolez, non ? Et les autres ?
Oh, une orangeade, c'est bien. C'est vraiment bien.
Orangeade. Ah, 4. Orangeade, plume.
Je prendrais bien un martini.
Ah, voilà. Ça, c'est bien. Bianco ?
Non, Rosso. Avec une petite rondelle.
Oui, dites donc, essayez de les faire boire. Parce que ces jus de fruits ne me disent rien de bon. Un petit scotch, un martini, il les réveillerait. Ça manque d'ambiance, non ?
Non.
Ah.
Pardon, vous n'auriez pas une petite rondelle d'orange ? Donc, j'ai l'habitude de prendre mon martini avec une fine rondelle d'orange de Sahel ou de Californie.
Vous voyez Fabre pour ça, hein ? Vous ne pourrez pas pousser le bouchon trop loin. Comprenez-vous ?
Oui, le mot exact, c'est la conscience inconsciente, puisqu'effectivement, au moins, on peut accorder ce crédit à ce patron-là, c'est que on a quand même l'impression qu'à l'occasion de ce week-end, des gens qui ne se fréquentent pas vont se fréquenter, puisqu'on sent quand même bien dans la boîte la hiérarchie entre l'employé, le cadre et puis le patron. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien qu'ils sont tous pas forcément d'abord sereins d'aller à ce week-end et qu'ils sont tous peut-être concernés par les prochaines catastrophes. Et il y a le personnage de Daniel Auteuil qui est intéressant parce que c'est un petit qui va essayer de tirer son épingle du jeu au cours de route. Alors, le jeu du patron se poursuit puisqu'il reçoit les gens dans sa maison, il les convie à un apéro. Voilà, il incite les gens à boire, et puis l'air de rien, il se dirige vers les bas salaires. Il écarte les hauts salaires et il les met d'office dans un hôtel à part. C'est-à-dire que les cadres logeront à la maison et les petits salaires se mettront en bas. Et il leur fait comprendre quand même que il fait pas un week-end à payer des chambres d'hôtel trop chères, gratos. Et on sent déjà le début où finalement il va les petits salaires vont lui servir en quelque sorte à mener à bien son plan. Il va pouvoir montrer de façon spectaculaire à ses petits salaires ce qui arrive au gros en quelque sorte.
Il les prend en allié, c'est-à-dire qu'effectivement il prend les petits salaires comme allié pour pouvoir éventuellement faire ce qu'il a à faire avec les gros salaires. Mais là où c'est impressionnant, c'est la façon dont il dit. Donc ce qui est intéressant, c'est la façon dont il dit aux gros salaires de partir. Parce qu'il va parler avec les petits salaires. Et là, ce qu'il fait, en fait, dans cet acte, c'est qu'il crée la paranoïa chez les gros salaires. C'est-à-dire que les gens vont partir en se disant, ça y est, c'est moi dont ils m'ont parlé, qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc., pourquoi ils m'ont invité. Et donc, la peur qui était créée tout le long du début du film, dont Claude a parlé tout à l'heure, ça va s'amplifier, en fait, dans leur esprit. Ils vont pas le montrer automatiquement tout de suite, mais ça va s'amplifier.
Oui, alors, ce serait une forme de conditionnement, finalement, quelque part. Hein. C'est-à-dire préparer les gens, mettre en scène et les préparer à l'inévitable, plutôt que ce soit trop rude et trop brusque, qu'à la fin du week-end, ils soient peut-être prêts à accepter leur sort. Peut-être qu'on peut voir ça comme ça.
Vous êtes tous à 400 points ici, hein ?
Oui,
hein ?
Non, moi personnellement, je suis à 525.
Ah, je vous avais pas vu, Calo. Excusez-moi. Vous pouvez nous laisser une seconde ?
De quoi s'agit-il ?
Sur un autre ton, démarrez vos houlets. La direction vous a mis à 450 récemment. Vous vous plaignez ? Allez, tiens. Une petite devinette pour les moins de 400. Une chambre d'hôtel dans la région, avec les commodités, la nourriture du matin. Ça va chercher dans les combien, à votre avis? Par jour?
80.
Oh!
110, 130.
Voilà un qui brûle, là.
Entre 180 et 200.
Ah bon? Parce que vous croyez que j'ai 20 000 anciens francs à perdre pour vous savoir au lit?
Ben, on ne couche pas là?
Ah non, Blanc, ben non. Vous, vous ne couchez pas là.
Et vous nous aviez dit que...
Vous avez vu la maison? Vous l'avez regardée? Vous avez vu sa taille? Ça me paraît clair, non? Vous serez très bien aux belles vues, aux petits poils.
Mais c'est un hôtel moderne.
Oui, tout ce qu'il y a de moderne, avec tout le confort, vous serez très bien.
Et très discret en plus.
Ce soir, une émission spéciale, le troisième volet de la série Chômage au cinéma, avec un film de Denis Garnier de Fer, Que les gros salaires lèvent le doigt, tourné en 1982 et extrait d'un livre de Jean-Marc Roberts, Les bêtes curieuses.
Puis on sent quand même qu'il y aura sûrement une pilule difficile à faire avaler, on ne sait pas encore si ça va être au petit ou au grand, mais il veut les séparer. Et il veut aussi que l'ambiance soit un petit peu moins tendue, parce qu'il pense que ça fait quand même deux jours à passer ensemble. Et lui-même, c'est-à-dire le patron, ne tient pas à ce que ça soit très très désagréable, tout au moins au début. Hein. Donc il tient à aménager un petit peu, à la fois séparer le personnel, mais aménager les deux pour leur dire « Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on est tous ensemble. »
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Claude, c'est-à-dire que c'est une mise en scène. C'est-à-dire il y a la mise en scène du metteur en scène sur les acteurs, mais le rôle principal du patron, donc de mettre en place toute une mise en scène tout le long du week-end pour arriver à ses fins. Et cette mise en scène, c'est donc par petites étapes, il va créer des jeux, il va faire ceci, il propose à manger, il fait une balade, on va voir ça après. Ça, donc c'est déjà une mise en scène, et donc on sent à travers ce personnage que ce patron est extrêmement vicieux. C'est-à-dire qu'il y a du vice là-dedans. C'est ça qui est drôle, c'est tourné avec beaucoup de légèreté, mais c'est quand même un patron vicieux.
Et alors le film se poursuit, et puis on passe à table, ça c'est sympa, et notre petit Loom, qui est joué par Daniel Auteuil, se retrouve assise à côté de la fille du patron, bon, qui est quelqu'un qui a l'air très perturbé, mais d'abord qui lui fait comprendre que les salariés ne sont rien vis-à-vis pour son père le patron, mais qu'en plus il prépare une charrette, et que il a donné les noms hier soir à table. Alors là, c'est toujours pareil. C'est drôle, quoi, parce que c'est le film qui montre ça. Le patron agit par sadisme. Voilà, toujours est-il que Daniel Auteuil en tire lui profit.
Monsieur Jeuf, j'aimerais bien vous parler seul à seul une minute.
Tout de suite?
Oui, ce sera pas très long. S'il vous plaît, une minute, vraiment. Et je vous jure, vraiment une minute. Hop, hop.
Comprenez? Bon, alors, qu'est-ce qui va pas, lui?
Ah, mais tout va bien, monsieur Jeff.
Non, tout va pas bien, vous voulez me parler, alors parlez, nous sommes en position, je vous écoute, allez-y.
C'est mon petit doigt.
Quoi, votre petit doigt?
Mon petit doigt a appris des choses.
Quelles choses?
Des choses pas très jolies, monsieur Jeff, pas très jolies. Vous voyez que mon petit doigt était parfaitement au courant.
Votre petit doigt, c'est Odile. Croyez que je vous ai pas vu coller à elle pendant tout le dîner? Vous voyez l'humain. J'ai deux filles. L'une vaut 20 sur 20. Vraiment, rien à lui reprocher. L'autre, zéro pointé. Je dirais que ça fait une moyenne. Mais c'est quand même ma fille. C'est pas une domestique, hein. C'est pas une employée. Je peux quand même pas la virer sur un simple coup de tête.
Qu'est-ce que vous faites?
Cigare, l'humain?
Je fume pas le cigare, c'est trop gros pour moi.
Écoutez, l'humain, j'aimerais bien qu'on s'amuse pendant ce week-end. Hein? Alors oubliez tout ça. Vous avez à boire, à manger, et même ma fille, pour ce qui est de la bagatelle. Je suppose qu'elle vous a fait le coup de la serviette, non? Eh ben alors, de quoi vous vous plaignez?
Je me plains pas. Seulement, il y a cette charrette. Pas supporter un pareil secret à moi tout seul.
Vous connaissez le salaire d'une cirée ou d'un calot? Vous savez ce qu'ils nous coûtent avec leur coup de fil personnel? Et leur déjeuner d'affaires? D'affaires, tiens. Tu penses? J'entretiens un nuage de sauterelles dans cette boîte.
C'est pas mon problème, je suis pas le patron.
Je vous en prie, Lume. Allez vous distraire, on parlera de tout ça demain. Je suis fatigué, aujourd'hui énervé. Ce week-end m'emmerde. Je les supporte déjà toute la semaine. Figurez-vous qu'en ce moment, j'ai d'autres problèmes.
Vous comptez vous y prendre comment pour le renoncer?
Mais vous cherchez quoi, au juste? À m'enlever le peu d'années qui me reste à vivre?
Vous allez leur dire ici?
Bon, allez, ça va comme ça, maintenant. Pour un peu chargé. Allez, allez.
Il faut 300 000 francs, ancien.
Pourquoi faire?
Pour la...
Qu'est-ce que vous faites, 3 000 francs?
Pourquoi, vous iriez plus loin? Je préférerais du liquide, si vous aviez...
Servez-vous?
Vous n'auriez pas des Delacroix?
Non, mais j'ai un Dufy, si vous voulez.
C'est pour l'écoulement. Et 6.
Vous me décevez, Lume. Je m'attendais vraiment pas à ça de votre part. Au fond, il n'y a que dans le montant de la somme que je vous reconnais.
Et là, on voit le rapport entre les deux hommes, le petit en bas de l'échelle, qui n'est pas le plus bas de l'échelle d'ailleurs de ce qui est invité, mais qui est quand même avec assez d'ancienneté, ce n'est pas encore senior, hein, il a quand même relativement jeune, et ce patron. Donc, Toy n'ose pas lui dire, mais il lui dit, mais voilà, je suis au courant, mon petit doigt. Alors mon petit doigt, l'autre, il a vite compris que c'était sa fille hein, qui avait mordu la mèche. Il commence par lui offrir des cigares pour lui dire « Mais non, mais pensez pas à ça, ça vous concerne pas, vous inquiétez pas, le rassure. » Et puis l'autre, il voit là l'opportunité de gagner un petit peu quelque chose. Le niveau de ce qu'il demande est ridicule, quoi. C'est... Et là, dans le fond, le patron, il se dit « Mais lui, je l'aurai comme je veux parce que... Hein, bon, c'est pas grand-chose que je lui paye pour son silence qui va durer que 24 heures hein, ou 48 heures maximum. Et de toute façon, c'est minable. »
Alors, moi, ce que je trouve assez admirable dans cette scène, c'est le rôle de la fille, qui est un rôle quand même qui me paraît essentiel dans ce film. C'est-à-dire qu'elle va créer, en disant à l'un des salariés, on ne sait pas encore lequel, enfin, on le sait maintenant puisque c'est Auteuil, elle va dire à Auteuil qu'il y aura une charrette. Donc, quelque part, le patron a peut-être voulu que sa fille vend de la mèche à l'un des salariés pour créer éventuellement des conflits parce que peut-être que le salarié va le répéter, donc on le sait pas, donc pour créer des conflits entre eux éventuellement et puis des peurs supplémentaires. C'est-à-dire que c'est un rôle très particulier, d'autant que c'est une fille qui est assez légère, donc qui couche comme dit le film. Mais donc ce personnage est quand même assez central mine de rien, puisqu'elle c'est elle qui va donner l'information et son père va lui laisser donner cette information.
Donc ce patron hein, qui s'appelle dans le film André Joff et qui est joué par Jean Poiret, fait faire une petite balade à ses salariés, parce qu'il faut toujours une balade le dimanche, dit-il, et il les emmène à l'église, où là, il leur fait un discours sur sa méthode, le discours de la méthode, du patronat, on pourrait dire. Et là, c'est quand même très intéressant, parce qu'effectivement, on apprend qu'il est parti de rien, enfin, du moins, c'est ce qu'il dit, mais qu'il a très vite progressé, bon, qu'il a quand même bien profité des 30 Glorieuses, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, il a acheté une des premières machines à laver, et puis qu'il allait à la messe tous les dimanches, qu'il s'était marié là, voilà, et qu'en définitive, le curé, avec son prêchi-prêcha et sa morale, tout ça, et il lui semblait quand même bien loin des réalités, de ces réalités patronales, et à tel point qu'il a réussi à le faire virer dans la banlieue nord.
Vous croyez en Dieu, vous?
Oui, pourquoi? C'est pour un sondage?
Ce que ça a changé, c'est fou.
C'est ici que je me suis marié. À l'époque, on n'avait rien, hein, avec Rose. Elle attendait Odile, Blampin, ma fille. Et le curé se prenait pour Bernanos. Il nous parlait la confiance réciproque, du bien et du mal, des blancs et des noirs. Un jour, j'en ai eu marre de Curton. Je l'ai fait muter dans la banlieue nord. Ils ont mis un bossu à la place. C'est embêtant, on perdait du temps parce que fallait toujours vérifier si c'était lavé les mains. Les mains de bossu, vous comprenez, on se méfie, c'est toujours douteux. À la fin, d'ailleurs, je l'obligeais même à donner l'hostie avec des gants. Des gants de cuisine, en caoutchouc. Un cadeau de Rose. Je lui avais payé une machine à laver. C'était les premières à l'époque. Alors, elle n'avait plus besoin de gants. Vous voyez les marais? C'est pour ça que je crois en Dieu. C'est à cause d'un lave-vaisselle. On appuie sur un bouton, et hop, la saleté s'en va. Formidable, quand on y réfléchit.
En fait, est représentatif d'une petite bourgeoisie de province qui s'est fait effectivement tout seul. Finalement, cette petite bourgeoisie a beaucoup de pouvoir, suffisamment en tout cas pour virer éventuellement un curé, mais ils ont la capacité, je crois qu'ils sont restés catholiques, par pure forme, c'est-à-dire par snobisme, pour justement gagner la confiance des ouvriers qui travaillent pour eux.
Oui, voilà, le filleul est un gagne petit, le parrain, lui, il a du vécu et il a beaucoup de vécu, il va pas s'en laisser compter, et puis il est pas dupe des conventions, et puis il sait à qui il a affaire, et l'un dans l'autre, finalement, le patron, Jean Poiret, accepte assez bien d'avoir cette personne qui lui agrémente un peu son week-end, à qui il est prêt à lâcher de l'argent d'ailleurs. Il en a déjà lâché au filleul, ça le dérange pas.
On avait dit 18h. Et Lume ?
Jean-Bain, il vient de partir chez vous avec son ami grossier.
Bon, on n'en a peut-être pas pour très longtemps.
Ben, ça dépend de vous.
Je pensais avoir été correct avec Jean-Bain, comme vous l'appelez.
Ben, pas moi. Qu'est-ce que vous croyez ?
Hein ?
Qu'est-ce que vous imaginez ? Je fais tous ces kilomètres pour avaler vos sandwichs !
Et qu'est-ce que vous savez, au juste ?
Le toutim.
Écoutez, votre filleul est un bon élément. C'est vraiment un modèle de discipline et de régularité. Mais de là à lui doubler son salaire...
S'il vous plaît, 412, 12-12.
C'est mon numéro, ce
point. On va pas appeler chez moi, il n'y avait personne.
Vous voulez parler à qui ?
À Cyril, à Calot, aux huiles.
Faites-moi ça. Heureux.
10 005.
C'est un négociateur redoutable, hein ?
Une fois, j'ai vendu un édenté, 1 000 000 de nos francs.
Vous avez vendu un édenté ?
Un timbre.
Ah, donc, c'est une belle somme, ça. Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Ah bon ? Une danseuse ?
Une voix. Elle m'a tout bouffé. J'étais un poésie lyrique, moi, sur les femmes qui m'ont perdu.
Oh là là. Ne parlez pas de ça. Ça veut dire qu'il devient un cadre, notre Lume.
Plus que ça.
Entre les deux personnages, l'un qui est le patron et l'autre qui n'est pas dans l'entreprise, pourquoi ce rapport il est différent ? Celui qui n'est pas dans l'entreprise n'est pas dans un domaine de soumission. Si on pouvait faire un rapport avec aujourd'hui, quand un chômeur va chercher du travail, il est dans un rapport de soumission parce qu'il est demandeur. Dans le rôle aussi du personnage qui est tenu par... qui, effectivement, prennent de la distance, de la hauteur et qui disent finalement le travail. C'est une aliénation, donc je ne veux pas y participer.
Et alors le film se poursuit et finalement, c'est la dernière soirée en fait. Hein. On est samedi soir et on va jouer d'une part au poker. Et ceux qui jouent au poker, c'est ceux qui ont de l'argent, donc c'est tous les cadres qui s'y collent. Et puis ensuite, il y a les gars de petits qui vont jouer au Monopoly et qui vont jouer avec la femme. La femme du patron, dont on n'a pas encore parlé, et qui, la femme du patron, qui fait figure d'hôtesse, de potiche. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça à la fin. Le police, c'est un jeu de dur. Le patron, il en a tellement qu'il relance à chaque fois, qu'il gagne tout le temps, parce qu'il est en caisse. Et donc là, il écrase littéralement ses subordonnés, jusqu'à leur imposer des châtiments corporels, c'est ça, hein, puisqu'il y en a un qui finit par vendre sa chemise et par devoir rester debout près du feu toute la nuit, assis près du feu toute la nuit.
Alors, ce qui est très marrant dans ce film, c'est justement ce personnage qui est à moitié à poil parce qu'il a tout perdu et que c'est le patron qui a gagné. Et ben, on est là dans tout ce qui est l'horreur du travail en général, c'est-à-dire que le patron a absolument tous les pouvoirs et de domination, je veux dire, sur le salarié. Et le salarié va tout perdre parce qu'il a joué. Et dans ce cadre-là, il ne faut pas jouer. C'est-à-dire que quand on va à ce repas, quand on va d'ailleurs, on va le voir par la suite, que certains personnages ne joueront pas ou vont jouer sans, en sachant très bien que c'est, l'affaire est faite et terminée. Hein. On est là dans un rapprochement de soumission totale de salarié et son patron qui va jusqu'à retirer son maillot de corps et il ne manque plus que son pantalon et éventuellement le reste. Hein.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Desmarais ?
Et il a tout balancé et tout. La cravate, la chemise, le veston. Clac, 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 clac.
Mais pourquoi vous restez par terre à prendre froid ?
C'est chef.
Sulzer, la cendre.
Il n'accepte pas l'échec candidaté.
Et quel rapport ?
Le rapport, c'est que monsieur Desmarais est obligé d'attendre la fin de la partie.
Et toi, tu gagnes au moins ? Je dérange pas.
Non, à condition de la boucler.
Sans mieux.
Ça sent.
Tapis.
Le basse. Plus 5. Colère. Ça vous apprendra à vouloir faire la police. Hein, mon petit vizir.
Ça, c'est très intéressant comme rapport. C'est-à-dire qu'on est là dans c'est le rapport à l'entreprise qui est un domaine complètement vertical. C'est-à-dire que le patron, dans sa façon de manager ses salariés, installe consciemment ou inconsciemment, à mon avis, il le fait consciemment, un rapport de hiérarchie. C'est-à-dire que tout le monde est chef de tout le monde. Même les petits pourront insulter celui qui est encore plus petit que lui. Et donc, tout ça, c'est très confus. D'ailleurs, la mise en scène fait en sorte que c'est très subtil. On en rit, parce que c'est gros, quelque part. Parce que C'est vrai que dans la vie de tous les jours, ça se voit pas comme ça, mais c'est quand même très, très réaliste. Et c'est vrai que les rapports entre les individus dans l'entreprise, c'est des rapports de soumission-domination, on l'a vu tout à l'heure, mais également de jalousie. Tu as un plus gros salaire que moi, alors tu fais le même boulot. Tu vois, toutes sortes de choses. Il y a même de l'amour parfois. La preuve, c'est qu'on a, là, on voit la fille coucher avec un de ses salariés. Mais là, dans l'entreprise, il y a aussi des rapports amoureux, on le sait aussi. Tout ça, c'est mélangé, confus. On ne sait pas trop qui fait quoi. Mais il y a quand même cette manière de traiter les salariés qui fait que l'installation de ce management consiste à faire en sorte qu'il y a les petits chefs qui commandent ceux qui sont en dessous d'eux, qui commandent ceux qui sont en dessous d'eux, et même les plus petits d'entre eux va pouvoir insulter celui qui est encore en dessous, soi-disant lui sauvant la mise, mais en se permettant de dire voilà, c'est pas de sa faute, il est un peu bête. Hein.
Oui, je voulais juste rajouter que ça, c'est aussi, ce genre de comportement vient de la tête. C'est qu'en réalité, les cadres, les employés répercutent le traitement qu'on leur inflige. C'est la répétition. Hein, et on le voit très bien. Jean-Baptiste Lumet, qui dès le début du film traite de moins curieux le coursier. Alors on arrive à la conclusion hein, de ce film et donc on a décidé ici de vous passer intégralement la chute parce que qui pourrait d'ailleurs être sans commentaire sans commentaire, simplement le titre se justifie à ce moment-là. Écoutez bien.
Oh, 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 mes amis, on va pas se quitter comme ça sans avoir joué une dernière fois. J'ai retardé ce moment, vous voyez, le plus longtemps possible, mais l'heure tourne. Pas chez vous, la noire, je sais bien, mais elle tourne quand même. Je voudrais pas vous renvoyer trop tard à vos femmes et à vos enfants. Alors, on va y aller. Que ceux dont le salaire mensuel dépasse les 7000 francs lèvent le doigt. Allez, n'ayez pas honte. Allez, allez, allez. Vous oubliez, Sulcer. Vous voulez peut-être que je révèle aux membres de votre service combien vous nous coûtez? Hein? Que je vous explique un peu la règle du jeu. Oh, ça n'a rien de comique, croyez-le bien. Il faut en effet que je me sépare de 4 d'entre vous. Eh oui, eh oui, eh oui. Les bons résultats ne sont qu'une façade. L'agence traverse une crise provisoire, je l'espère, mais douloureuse quand même. Vous êtes trop bien payés, messieurs, dames. Eh oui, les salaires ont grimpé, par ma faute, par la vôtre, je sais pas, je veux pas le savoir. En tout cas, le courage me manque pour désigner comme ça brutalement 4 victimes. Alors j'ai décidé de faire ça sous forme de jeu. Les chaises musicales, je suppose que tout le monde connaît ça. Vous savez, si, on fait tourner des gens autour d'une table, et au signal de l'arbitre, et l'arbitre, cette fois-ci le noir, ce sera moi, au signal de l'arbitre, les gens s'arrêtent de tourner. Ils n'ont plus qu'à s'asseoir. Seulement pour 8 joueurs, par exemple, on dispose uniquement 7 chaises autour de la table. Vous voyez le principe? Pour 7, 6, pour 6, 5, et ainsi de suite. Celui qui restera debout aura perdu sa place à la table et à l'agence. Je ne peux pas être plus clair. Le jeu cessera quand vous ne serez plus que 5 assis. Vous m'avez bien compris?
Enfin, nous ne sommes pas du bétail, tout de même, c'est monstrueux.
Et en ce qui me concerne, je ne me livrerai pas à ce ridicule. Vous voulez ma démission, vous l'aurez tout de suite.
Vous restez à votre place, au désir. Hein? Vous jouerez comme tout le monde.
Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas légal.
Relisez donc votre lettre d'engagement, Arnaud. J'ai absolument tous les droits.
Alors, cette scène, c'est une des plus grandes scènes du cinéma, on a envie de dire. Hein, puisque là, il y a tout. Moi, ce qui m'a marqué dans cette scène-là, c'est d'abord que finalement... ce que montre le patron, c'est qu'il montre les cadres les plus gros salaires, ceux qui ont le statut social le plus élevé, ils vont se déchirer, ils vont se battre pour leur place et ils vont se battre devant les petits salaires qui sont pas concernés, qui eux vont applaudir le spectacle. Et c'est tout un symbole, c'est-à-dire que finalement, dans notre société, c'est comme si le plus gros prenait à témoin les plus petits pour voir l'échelon intermédiaire, l'espèce de lutte de pouvoir en fait qui est implacable, qui se passe entre élites. Ça c'est votre sort. Vous avez des petits salaires, mais regardez là-haut ce qui se passe. C'est ça qui m'a frappé.
Mais ce qui est surtout dans cette scène, on l'a pu l'entendre à l'instant, ce qui est très drôle, c'est le fait que le patron, contrairement à ce qui se passe dans la réalité, parce que dans la réalité, c'est la lettre en recommandé, c'est on n'était pas prévenu à l'avance, on tombe des nues quoi. Et généralement, une charade, c'est plusieurs personnes, c'est pas une seule personne qui est licenciée. Donc, c'est effectivement un gros truc. Des fois, il y a des bruits de couloir dans l'entreprise comme quoi on sait qu'il va y en avoir une, mais bon. Alors que là, ça, c'est le. Il a réussi tout son cinéma, le patron, son scénario. C'est-à-dire qu'il voulait faire ça en finale. C'était un petit peu comme dans le cirque. C'est le bouquet final, quoi. C'est l'apothéose. chaise, on fait le jeu qui détermine, par la chaise musicale, on détermine qui va être licencié par un jeu. Et ça, c'est là, on tombe dans le sublime du cynisme.
Allez, allez, un peu de cran. Vous pouvez plus reculer maintenant, vous subordonnez vos regards. Fabre, le drapeau, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous autres, vous êtes libres d'encourager qui vous voulez, hein, c'est le jeu. Allez, allez, donnez-moi ça. Attention, attention pour les départs. Prêt ? Partez, allez, allez,
allez,
allez, allez, allez, allez, allez,
allez, allez, allez, allez, allez, allez,
allez, allez,
allez, allez, allez,
allez, allez, allez, allez, voilà, voilà. C'est le principe. Eh ben, vous voyez bien que c'est pas sorcier. Ah, vous me dégoûtez, les marais. Vous êtes renvoyés. Là, soyez beau joueur, au moins. En tant que chef comptable, vous calculerez vous-même vos indemnités.
Ça va chercher dans les quatre briques.
Si mon machin, c'est du poulet, la poule au pot doit bien se marrer. Depuis que je touche des nouveaux francs... Van Gogh, maintenant, vaut des millions. Gauguin se vend mieux que du cochon. Rien n'a changé, on tourne en rond. Et dure, dure ma chanson. Le temps que je me marre.
Ce soir, une émission spéciale, le troisième volet de la série Chômage au cinéma, avec un film de Denis Granier de Fer, Que les gros salaires lèvent le doigt, tourné en 1982 et extrait d'un livre de Jean-Marc Roberts, Les bêtes curieuses. Hein, c'est terrible, quoi. C'est monstrueux. Mais en même temps, c'est quelque part, c'est très humain, puisque c'est plus humain que recevoir une lettre recommandée le lundi quand on se réveille, quoi.
Non, moi, je dirais pas que c'est cynique. Je dirais que c'est une métaphore, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est une métaphore de ce qui se passe réellement dans un plan social ou de ce qui se passe avant un plan social. C'est-à-dire que on sait pas qui va être licencié, mais celui qui va être licencié, ça va être le plus faible, de toute façon. C'est le maillon faible. Et c'est le thème du jeu. C'est-à-dire que ceux qui vont perdre, ça va être le mal-aimé, la femme qui sera jetée en bas de son siège alors qu'elle est assise par un homme plus fort qu'elle, ça sera les gens qui seront pas assez vifs, qui seront pas assez rapides, des gens qui vont se battre littéralement pour garder leur place. Et c'est intéressant parce qu'à un moment dans la scène, le patron lui dit vous êtes le comptable, vous êtes viré, vous calculerez vous-même vos indemnités, et les petits salaires disent effectivement elles se montent au moins à 4 millions d'euros, et c'est tout un symbole, quoi. Voilà, des gens qui sauvent leur place, mais qui sont quand même bien nantis.
Allez, on s'attendrit pas, on y va. Allez, deuxième tour.
Bon, ouais, ça va.
Suzer, Suzer.
Ne me touchez pas. Je ne sais pas. Non. Eh bien, oui. Oui.
J'ai une femme, vous pouvez pas me faire ça.
Cirer et virer et ça suffit comme ça. J'avoue que ça me fait rire.
J'ai droit à des égards. Une faveur.
Emportez la chaise, si vous voulez, en souvenir. Allez. Allez.
Un beau petit jambe.
Bon, allez. Monsieur Callot, lassez.
Oui, ça démontre autre chose aussi. C'est pas que le côté cynique et le côté... Bien sûr, il y a le côté bagarre autour des chaises. Il y a autre chose. Qui est démontré là, c'est que il est difficile d'avoir un critère pour licencier, de même que pour embaucher. Quand il y a tant de gens qui se présentent, puisque aussi bien en candidature spontanée qu'à la suite d'une annonce, on a un tel choix, lequel prendre. Et là, on a vu fleurir des critères qui n'ont rien à voir avec les critères propres, les qualités propres qu'avait besoin le patron pour un certain travail. Lui considère que de toute façon, s'il en est à ce point-là, c'est parce qu'ils ont tous mal fait leur boulot et que de toute façon, ils coûtaient trop cher au niveau des salaires et que, il le dit rapidement à un moment donné, hein, il dit je ne sais pas à cause de qui c'est, mais c'est comme ça, hein, donc faut en éliminer. Et on n'a pas vu, en tout cas je n'ai pas entendu parler d'élimination par le jeu des chaises musicales, mais on a vu des critères de sélection pour licencier les gens qui n'avaient rien à voir avec le travail par lui-même. Dans une boîte que je connais bien où j'étais, il a été sélectionné, par exemple, que on prenait en priorité, on licenciait en priorité les célibataires ou ceux qui n'étaient pas en charge d'enfants. Ben, côté paternalisme, qui n'a rien à voir avec la qualité propre du travail, qui est, normalement, le patron doit regarder ça aussi. Enfin, c'est son premier critère. On a vu aussi, alors, dans le sens inverse pour les embauches, là, ça a été dénoncé dans certains journaux. Bah, après l'examen graphologique qui a été remis en cause par tout le monde, beaucoup de gens disent, mais la graphologie, c'est comme l'alchimie par rapport à la chimie, quoi. Ça veut rien dire du tout. On a vu aussi des patrons embauchés sur le signe astral. Ça a été montré à la télévision. Et la personne se justifiait en disant, mais si, c'est très important parce que ça va être mon proche collaborateur. Et si je ne peux pas m'entendre avec lui à cause de son signe astral, ça sera préjudiciable à la société, à la bonne marge de mes affaires. Donc, c'est un critère comme un autre. Et ça s'est vu dans la réalité. Donc, le surréalisme du film, eh ben, en réalité, il est très près de là.
Mais peut-être qu'on peut faire une remarque plus générale, c'est que finalement, il est aussi difficile d'embaucher que de licencier. Il est évidemment plus difficile de licencier que d'embaucher humainement, mais finalement, les critères ne sont jamais parfaits. Et c'est ce qui induit... Il n'y a pas de collaborateur parfait quand on embauche. C'est ce qui induit aussi que les rapports de travail soient si difficiles entre les salariés. C'est que aucun salarié, ou très peu de salariés, sont des salariés qui réellement vont s'entendre avec tous les autres salariés de la boîte, vont s'entendre avec le patron, vont être compétents, et dans le licenciement, il y a ce phénomène-là aussi, parce que finalement, c'est pas des licenciements individuels, pour faute, pour des gens qui sont pas bons. Quoique, aujourd'hui, c'est devenu la monnaie courante d'éliminer le maillon faible. Mais c'est des licenciements collectifs, des plans sociaux. Et là, oui, effectivement, quel est le critère la qualité du travail n'est pas en cause. C'est pas la qualité, c'est la situation des gens, elle est peut-être plus. Et en l'occurrence, là, il choisit peut-être un mode qui est pas si mal, c'est qu'il vire les hauts salaires. Et alors, il a...
Attention ! Allez, Benoît, bougez.
Calons
voilà. Et le 3, José.
Ben moi, je suis ravi. Mais alors, ravi. J'en ai marre de votre boîte. Hein? De ce week-end-là. Tiens, assez de vos deux putains, là. Hein? J'ai bien dit vos deux putains. Alors, ralâchez chien de vos méthodes, hein. Hein? Et avec votre truc, là, votre Walkman à la con, là. Non, c'est même pas un Sony, son Walkman. Et votre cul, là, hein? Assez de votre cul, là, gros comme ça, là. Hein? Bordé de nouilles!
Fabre, vous accompagnez Monsieur Lenoir à sa voiture. Il fait plus partie de la maison.
Allez, debout, prêt?
Ah, mais...
Voilà. Ils lui ont cassé, ça, j'en suis sûr. Une vengeance de ponte. Allez, regardez-les, là, hein. Ils se frottent les mains, ils jubilent. Hein. On m'a jamais aimé à l'agence, personne ne m'aimait.
C'est pas vrai.
Puis c'est terminé, hein. Je suis le dernier, c'est ça. Voilà un beau finish pour vous. Ma jambe, je la sens même plus.
Eh ben prenez l'autre, vézir, et foutez-moi le camp. Vous voyez pas que je suis à bout, non?
On arrive un peu à la conclusion du film. C'est que vous avez entendu. C'est que finalement, eh bien voilà, on a licencié les gros salaires, ceux qui coûtaient le plus d'argent. Donc on nettoie un peu le haut, hein. On fait un petit nettoyage des gens dont il est temps qui partent à la retraite ou qui fassent autre chose. Et puis finalement, maintenant il reste 4 personnes à virer parmi les petits salaires. Après avoir pris les... En fait, c'était peut-être l'objectif du patron. L'objectif final, c'était de prendre les salariés un par un, des catégories de salariés un par un, et de s'en occuper un par un, de façon à ne pas s'aliéner une catégorie par rapport à l'autre et à ne pas provoquer une unité dans la boîte qui aurait provoqué une grève et des pertes importantes.
Oui, et puis... Bah, là, la question se repose, quel va être le critère de sélection pour les petits salaires, et on en restera là. Mais on peut s'imaginer que ça peut être n'importe quel autre critère. Il ne va pas refaire la même chose, sûrement pas. Hein, il leur a montré ça. Et bah, la femme, qu'on voit pas beaucoup, mais qui a une grande importance, on le sent dans ce scénario, en réalité, dit « mais t'inquiète pas, on va trouver quelque chose ».
Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le portrait social du milieu, hein, c'est-à-dire de la famille du patron, puisque là, on voit le patron dans son intimité avec ses deux filles et sa femme. Et donc, tout au long du film, on a l'impression que D'abord, ses filles sont des... j'allais pas dire des dégénérés, parce que... c'est, mais des filles dont le père a manifestement pas eu le temps de s'occuper. Donc entre la cadette qui a fait 4 tentatives de suicide, entre l'aînée qui a fait 4 tentatives de suicide et qui donne son corps à tout le monde, y compris aux salariés de son patron, la cadette qui suit le même chemin, et puis la mère qui dont on a l'impression tout au long du repas qu'elle est une potiche, on se rend bien compte. Oui, parce qu'on, c'est une potiche, parce qu'il les renvoie, en fait, hein, au moment de la sélection des personnes licenciées, il renvoie à la fois sa femme et ses deux filles comme de vulgaires domestiques. Et pourtant, on sent bien, notamment avec la femme, qu'au bout du compte, elle est complice. Au bout du compte, c'est des complices. C'est un milieu qui est carinca, qui est très névrosé, très névrotique, qui propose pas de névrose. Mais bon, quand même, il faut préserver nos intérêts et notre structure familiale et nos intérêts avant tout, même si on est dans un endroit de débauche, de cynisme, et de tout ce qui va avec.
Il les renvoie, mais c'est pas parce qu'elles sont des potiches. Bah, je pense que c'est pour les préserver, parce que ça va être une boucherie, en réalité. C'est pour les préserver.
Peut-être, mais ça veut dire qu'il ne les considère pas comme, enfin, notamment sa femme, comme une adulte. Voilà. Ou alors c'est pour la dignité des salariés. Mais le ton qu'il prend, c'est, indique quand même qu'elles sont aux ordres et que ce sont des domestiques. Le ton qu'il prend ne laisse aucune et très caricatural d'ailleurs, hein, très caricatural du pater familias.
Vous savez, monsieur Callot, je suis vraiment très heureux de vous garder comme supérieur.
Alors, j'ai bien entendu vos encouragements pendant l'épreuve. C'était, je sais pas comment dire, c'était stimulant, voilà, réconfortant. De toute façon, lui, vous savez bien que je suis bien plus pour vous qu'un chef. Bien plus qu'un chef.
Vous voyez, c'est pas si simple d'être au sommet, de s'y maintenir. Nous sommes tous des alpinistes, mes amis. André. Je le dis à monsieur Jeff. Il a planté son petit drapeau le premier, voilà. Seulement un petit drapeau, c'est fragile, ça s'envole. Parfois, il suffit d'un vent contraire et hop, le petit drapeau est contrarié. Alors là, je crie casse-cou. Le monde est un trop-plein de crevasses. Alors, un bon conseil, faites comme moi.
Qu'est-ce que vous faites ?
De la luge, de la luge, de la luge.
André ! Qu'est-ce que tu m'as fait peur ?
À demain, monsieur Callot.
À toujours, mon petit Lume. On est en compte.
Mmh. Au revoir.
Tu es tout bouillant. Tu sais, au fond, ça... ça s'est pas si mal passé. Tu sens comme ça sent bon ? Et pour les petits salaires ?
Il faut que j'en lire encore trois. Putain, comment je vais faire ?
On trouvera, on trouvera.
Oui, alors en conclusion, il faut rappeler quand même que ce film date de 1982. Alors, effectivement, on est dans des vagues de licenciements, mais qui concernent l'industrie. Et notamment l'industrie nationalisée, et on peut dire globalement que dans les années 80, les entreprises, et notamment les entreprises de services et la finance, se sont bien portées, qu'elles ont fait des marges importantes. Donc c'est vrai que le film montre une réalité qui sera beaucoup plus, montre quelque chose qui sera beaucoup plus réaliste, ou qui apparaîtra de façon récurrente dans les années à venir, qui n'est pas encore actuel, on va dire. Alors par contre, il y a peut-être des modifications effectivement au niveau des entreprises qui sont familiales, des petites entreprises familiales qui doivent grandir et qui doivent se restructurer, et notamment des entreprises traditionnelles qui doivent changer. Sur le principe des licenciements, on a vu que Voilà. Après tout, c'était une manière comme une autre. Et puis, il y a quand même ce qui apparaît aussi dans le film, c'est cette volonté du patron de se plaindre, finalement, hein, parce qu'il arrive aux responsabilités. Alors, comme le dit très bien Michel Piccoli, finalement, il a planté son drapeau blanc en haut de la montagne, le premier. Simplement, le drapeau, il peut changer, il peut tomber. Il faut surtout pas que ça arrive. Donc le patron préserve ses intérêts et passe son temps à se plaindre, finalement. Alors qu'il va virer 4 personnes minimum de son entreprise. Qu'est-ce qui a changé aussi, c'est que aujourd'hui, finalement, avec l'actionnariat et avec les prises de capital, d'abord c'est devenu une banalité de virer les gens, et en plus ça se fait de façon pratiquement automatique par lettre recommandée, sans qu'il y ait besoin de faire toute cette mise en scène. Et c'est simplement le parce que l'entreprise est traditionnelle, parce que les gens ont une très grande ancienneté, que la pratique du film est si douloureuse. Aujourd'hui, on sait que la durée de vie des salariés, elle n'est pas énorme, et en plus, les salariés, pour monter, ont tendance à devoir changer de boîte. Parce qu'ils savent qu'ils sont, tout le monde a bien compris aujourd'hui dans les entreprises que on est toujours sur un siège éjectable. Et finalement, ça pourrait être la conclusion du film. Cette émission se termine. Nous vous avons présenté des extraits du film Que les gros salaires lèvent le doigt de Denis Granier-Defer, un film qui date de 1982 et qui parle, vous l'avez compris, de licenciement collectif. C'était Mode d'emploi sur FPP 106.3 de la bande FM. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission. Merci à tous.